Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12. Et ce matin, en préparant, je me suis dit, on va lire du verset 9 au verset 18 ou 19. Et puis je me suis dit, non, on va tout lire. On va tout lire. Romains, chapitre 12. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou logique. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12. J'ai eu l'impression qu'il y a quelques personnes qui cherchaient le chapitre, et on est maintenant au verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit : à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Première, que le Seigneur d'abord bénisse sa parole et qu'elle devienne nourriture pour notre âme, pas simplement pour notre réflexion, que vraiment elle nous travaille, elle nous traverse, cette parole. Alors, la première prédication, 2 minutes chronomètre en main, vous avez un résumé merveilleux de ce texte juste au-dessus de ma tête, en latin, pour ceux qui le voient. Il est venu non pas pour diriger, mais pour être le serviteur de tous. Et nous sommes au service du Seigneur. Et donc, cette devise, tous les dimanches matins, elle devrait être lue, elle devrait être rappelée. Si nous sommes là et si nous agissons au nom du Seigneur, c'est pour servir. Première prédication terminée. D'accord ? 2 minutes ? Ça va ? Mais c'est vrai que c'est tout le programme. C'est tout le programme. Je vais commencer par notre orientation d'église. Nous sommes dans une église qui est issue de la réforme, de Martin Luther. Et ces églises de la Réforme ont considéré cette épître aux Romains comme étant la cathédrale, le monument de la foi chrétienne, le résumé de la foi chrétienne. Cette épître aux Romains et l'épître aux Galates. Ce sont les deux épîtres qui tenaient à cœur Martin Luther, qui va vraiment se baser là-dessus pour prêcher, pour découvrir la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais quand j'ai dit ça, il faut rajouter que pour la plupart des chrétiens d'orientation protestante, eh bien, on se focalise sur les 11 premiers chapitres et pas sur les derniers chapitres. Les 11 premiers chapitres, pourquoi ? Parce qu'ils rappellent toute la doctrine à partir du péché qui nous enferme dans la condamnation avec la délivrance en Jésus-Christ par sa mort sur la croix et par sa résurrection, en allant jusqu'au plan de Dieu pour Israël, au chapitre 11. Et à partir du chapitre 12, on est là comme une rupture, comme un changement. On arrive à tout un texte qui, avant, était doctrinal et qui, maintenant, devient des exhortations. L'apôtre Paul, vous l'avez remarqué, ne cesse, dans ce chapitre 12, et puis les suivants, à donner des exhortations, à donner des recommandations, à donner des ordres. Et on n'aime pas recevoir des ordres. On aime bien une fois de temps en temps, mais quand même plusieurs chapitres, c'est un peu trop. Ces recommandations seulement obéissent pour Paul à une logique théologique. Donc ce n'est pas de la morale. Ça donne un sens pratique à notre foi. Les 11 premiers chapitres nous disent c'est quoi la foi. Les chapitres suivants nous disent comment on vit la foi. Comment on vit la foi, et particulièrement ce chapitre 12. Je voudrais aussi dire que quand nous lisons dans nos versions, vous l'avez remarqué, dans la version Louis II traditionnelle, ce ne sont qu'une succession de verbes à l'impératif. Faites ceci, ne faites pas cela, faites ceci, ne faites pas cela, abstenez-vous de ceci, abstenez-vous de cela, au contraire, mettez en évidence cela, ceci, cela. Or, dans le texte grec, il n'y a qu'un seul impératif, qu'un seul verbe à l'impératif, et il se trouve au verset 14. Et je vous invite vraiment à le considérer comme étant un commandement fondamental pour la foi chrétienne. Bénissez. Et ne maudissez pas. Et c'est le seul impératif qu'il donne, le seul ordre qu'il donne. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, abstenez-vous de toute parole de malédiction et recherchez des paroles qui bénissent. Pourquoi ? Parce que la bénédiction, elle donne toujours la possibilité à la personne, même la plus pécheresse, qu'un jour peut-être, elle se repentira et qu'elle se tournera vers le Seigneur. Qu'elle se tournera vers le Seigneur et qu'elle dira, Seigneur, pardon pour mon péché. Pardon pour mon péché, tu as payé pour moi. Et donc le chrétien, en bénissant, montre son espérance et sa foi que toute personne est appelée à rencontrer le Seigneur et Sauveur que nous adorons tous, que nous essayons de servir, que nous essayons de suivre dans notre vie, malgré nos faiblesses, comme une des prières a été dite tout à l'heure au moment de prière spontanée. Tous les autres verbes sont soit au participe, soit à l'infinitif. Je ne fais pas du plaisir de grammaire ici. Le participe est toujours relié un verbe a une proposition principale. Et la proposition principale, c'est la vie comme notaire, au verset 4 et au verset 5. Comme il y a une multitude de parties dans notre corps, et pourtant qu'il y ait un seul, le corps, que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes multiples, qui sommes plusieurs, dans ce corps qui est le corps de Christ, n'avons pas nécessairement la même fonction, mais nous faisons tous partie les uns des autres. Et là, nous avons cette cette parole qui nous dit dans l'Église, personne ne doit être la photocopie d'un autre, même du meilleur dans l'Église, même du plus grand modèle, mais que tous ensemble, nous regardions à Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, et que tous ensemble, nous mettions en commun ce qu'il y a de mieux en nous pour le service de l'Église, en étant attentif aux autres. Donc, ce n'est pas simplement dire « j'ai reçu du Seigneur cette parole et donc je fonce », c'est « j'ai reçu cette parole et ensemble, nous la partageons et ensemble, nous discernons le temps et le moment de cette mise en action de cette parole que j'ai reçue. Je vous encourage, verset 1. Mes frères, et le texte, je l'ai insisté, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans ma lecture, il y a le « donc ». Et le « donc » fait référence aux 11 premiers chapitres. Si vous avez compris l'œuvre de Christ, alors vous pouvez comprendre que vous offrez votre vie au Seigneur en retour. C'est tout simplement ça, ce « donc ». Ce « donc », c'est de dire « j'ai compris ». J'ai compris, je ne suis pas parfait, mais j'ai compris. Je ne suis pas parfait, mais j'ai la volonté. Et j'ai cette volonté de me laisser transformer dans ma réflexion, dans mon intelligence, dans mon action, pour me mettre, la devise derrière, au service de l'œuvre du Christ, dans ce monde et dans l'Église. Et je dis bien dans ce monde et dans l'Église. En d'autres mots, si ce dimanche matin j'ai mis mon costume pour venir ici pour prêcher, eh bien mon costume intérieur, ma foi intérieure, c'est tous les jours que je me revais du Christ, de ce costume parfait. Offrir votre corps comme un sacrifice. Et tu l'as dit, mais quand on traverse un pont, ce pont, on ne dit pas en mince le gaspillage de briques, de béton, de ciment que l'on a fait pour ce pont. On dit quelle œuvre merveilleuse. C'est la même chose avec notre Seigneur. Notre Seigneur, on ne dit pas, Seigneur, tu as gâché ta vie, mais j'admire ton œuvre. Eh bien, cette parole, elle est aussi pour nous. Seigneur, ce que je sacrifie, c'est rien en fonction de l'admiration, de l'action de grâce, du remerciement que je peux en retour te donner de ton œuvre à toi. Et donc, Paul dit, mais voilà, si vous avez tout compris, si vous avez compris l'œuvre du Christ, eh bien, votre culte raisonnable, logique, c'est par votre vie, c'est-à-dire par votre bouche, par vos mains, par vos actions et par vos pensées. Et par l'absence, pour reprendre les ordres, le seul ordre qui est, l'absence de malédiction est toujours un regard vers la bénédiction. Oui, mon habit du dimanche, eh bien, le Seigneur me demande que cet habit du dimanche intérieur soit mon habit de tous les jours. Ce culte, cet habit, il est composé de deux qualités. La vie en Christ et ma relation avec les autres. Je ne suis pas un chrétien sur une île déserte et je ne suis pas un chrétien qui construit des barricades autour de lui pour se protéger du monde. Nous sommes dans le monde et nous sommes invités à être la lumière et le sel du monde. Ça ne veut pas dire à épouser le monde, mais à agir dans le monde, à être présent dans le monde, à être présent dans le monde de chaque jour, avec toutes ses beautés, toutes ses laideurs, avec toutes ses trahisons, avec toutes ces désobéissances par rapport à la parole de Dieu, mais où moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis appelé à luire et à être sel de la terre. Et donc, cet habit intérieur, il est composé de ma vie, de ma relation personnelle avec Dieu, et ça, je pense que tous, nous essayons de l'entretenir, cette vie personnelle avec Dieu, par la prière, par la méditation de la parole, par le partage de la parole en étude biblique, etc., etc. Et notre relation les uns aux autres. Est-ce que nous y prenons autant soin que de notre vie intérieure, personnelle, avec le Seigneur? L'apôtre Paul nous dit, tout ce qui est fervent, tout ce qui est sincère, tout ce qui est énergique, tout ce qui est fort, tout ce qui est tendre aussi, soit ce qui nous anime, soit ce qui nous anime. Et il nous dit donc en d'autres mots, quand vous agissez en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas pour manipuler les autres, c'est pas pour obtenir des choses par rapport aux autres. Soyez fiers d'appartenir à Christ. Soyez fiers, mais pas orgueilleux. Fiers, mais pas orgueilleux. C'est la définition de l'humilité. C'est Christ qui est le centre. C'est pas moi, ni ma foi. C'est le Christ qui est le sujet et l'objet de la foi. Non à l'orgueil qui se prétend être meilleur qu'un autre. C'est pour cela aussi que l'apôtre Paul, dans ce chapitre, utilise souvent des expressions qui veulent dire les uns pour les autres. Je suis pour les autres. Et la vie est donc vécue sans aucune pression morale. Il faut faire la différence entre la morale, qui est d'avoir un comportement qui est conforme à ce que les autres nous demandent, et l'éthique, qui est de dire comment je me comporte. Quel sens je donne à mon comportement et quel sens chrétien je donne à mon comportement. Sans aucune pression moralisatrice. Sans rechercher à paraître être un bon chrétien. Sans l'apparence. Le seul impératif donc, c'est Seigneur, je veux m'engager. Je veux. Je le veux de tout mon cœur. Je sais que je vais tomber. Mais je sais aussi que tu me relèves. Et que si tu me dis au début de l'évangile, tu es l'Emmanuel, à la fin de l'évangile, tu dis, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire du début à la fin, et pas seulement de ma vie, mais du monde, le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Et bénir, frères et sœurs, c'est combattre. Combattre contre le mal. C'est entreprendre de dire, je vais changer le monde. Mais par des paroles qui construisent et pas par des paroles qui détruisent. Et si je ne peux pas parler de Dieu au monde, je parle à Dieu du monde. Bénir les persécuteurs, c'est se montrer partie prenante de cette création, de ce royaume de Dieu, de cette nouvelle création qui est promise par Dieu et qui a été commencée par Jésus-Christ. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus. Et j'aime beaucoup dans certaines églises, il y a des croix où il n'y a pas les bras de Jésus. Et on se demande pourquoi on ne met pas les bras. C'est parce que l'auteur de cette sculpture veut dire, mais les bras, ils ne sont plus là. C'est vous, c'est nous tous, les bras du Seigneur. Alors, je termine par cette conclusion du verset 19. Ne vous faites pas justice vous-même. Et Paul dit, bien-aimé. Donc il a beaucoup d'amour quand il parle. Mais laissez la place, laissez tomber la colère. Exprimez-la devant Dieu en d'autres mots. Parce que c'est Dieu qui fait justice. C'est Dieu qui assemble des charbons ardents. Ça veut dire que sa justice, elle s'établira. Mais ce n'est pas à nous à établir la justice, parce que bien souvent, on fait beaucoup de dégâts. Et donc, je termine par là. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Tout ce chapitre 12, toutes ces exhortations sont donc simplement des indices, si nous essayons de les mettre en pratique, simplement des indices que nous vivons une foi, F-O-I, saine. Saine, vivante. Ce sont des indices de notre vitalité, en Christ, et pas des indices de faiblesse. Donc c'est un acte humble, un pari et un signe. C'est le signe, le pari et un acte d'humilité de dire « Voilà comment je rends culte à Dieu. Voilà comment j'adore Dieu. » Jamais, je termine par là, haut les cœurs, mes frères et mes sœurs. Haut les cœurs, élevons nos cœurs pour exprimer la volonté de courage. Haut les cœurs, mes frères et sœurs, parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Amen.